Je vais continuer le message que j'ai commencé dimanche dernier sur l'Apocalypse, d'autant plus que nous sommes entourés des tableaux de l'Apocalypse. Alors, c'est une façon, enfin ces tableaux, c'est une façon que le peintre a utilisé, un moyen d'expression, d'une part l'image, bien sûr, qui est dans l'Apocalypse, mais en même temps les couleurs, il n'y a pratiquement que du noir et blanc ou un peu de beige. Alors que dans l'Apocalypse, par exemple, le dragon, il est rouge, hein, donc il devrait être rouge, etc. Mais bon, ça nous interpelle, et l'idée qu'il nous a décrit, c'est que le blanc domine toujours sur le noir, hein, c'est que la lumière domine sur les ténèbres. D'ailleurs, au départ, il nous a expliqué que, d'ailleurs, sa femme a dit que c'était très joli, c'était tout blanc, puisque c'est des papiers collés, hein, et ensuite, après, il a passé le rouleau noir. Mais c'est le blanc qui domine. Bon, c'est une image qui nous parle que c'est toujours Jésus qui a le dernier mot. Amen. Alors, pour ce qui concerne le livre d'Apocalypse, qu'on n'a pas encore vraiment étudié dans l'Église, et d'autant plus que je ne suis pas très à l'aise avec ce livre, comme beaucoup de pasteurs. D'ailleurs, il paraît que Calvin a écrit sur tous les livres sauf l'Apocalypse. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Bon, c'est l'année Calvin, entre autres, il y a une exposition à Meulan en novembre. Nous, on va la faire ici, une exposition nationale qui retraduit les 500 ans de Calvin. Et d'ailleurs, la fête protestante à Strasbourg est basée sur les 500 ans de Calvin, puisque Calvin a été plusieurs années à Strasbourg avec Bucer et d'autres réformateurs. L'Apocalypse, pour la comprendre, il faut avoir certaines façons d'aborder ce livre qui est un peu différent. Tout d'abord, le style de l'Apocalypse, vous l'avez remarqué, n'est pas le même que les évangiles, n'est pas le même que les épîtres de Pierre ou de Paul ou de Jean. C'est un style à part, hein. Déjà, la manière dont il est écrit, c'est ce qu'on appelle le style apocalyptique, hein. Et ce style, on le retrouve dans certains livres apocalyptiques, comme Ézéchiel, comme Daniel, quelque part. Et c'est quoi ce style? Eh bien, c'est un style qui est utilisé parce que c'est dans les moments de crise qu'il est utilisé, premièrement. Donc, chaque fois qu'il y a des crises, quand le peuple a été déporté, et qu'il était en déportation, etc., chaque fois qu'il y a des crises, ce style est utilisé. Pourquoi? Parce que, en fait, habituellement, hein, on considère qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de communication, et heureusement. Justement, les gens qui pratiquent l'occultisme, ils brisent cette protection et ils rentrent en contact avec les esprits. Mais Dieu, de temps en temps, il ouvre une porte, hein, une porte pour que on puisse, nous aussi, sans pratiquer l'occultisme, fort heureusement, savoir ce qui se passe dans le ciel, hein. Et par exemple, le livre de l'Apocalypse, disons, le style apocalyptique commence au chapitre 4, verset 1, pas au chapitre 1er. Au chapitre 1er, on nous explique que cette lettre est adressée aux églises. Donc c'est un message aux églises. Et au chapitre 4, voyez, le style apocalyptique, c'est le suivant. Après cela, je lis, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voyez-vous, le ravissement d'esprit fait partie de ce style apocalyptique. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, etc. Autour du trône, il y avait 24 anciens. Donc, l'apôtre Jean décrit ce qu'il voit. Le problème, c'est qu'il est obligé de le décrire. Quelque chose d'indicible, qui n'est pas de cette nature, avec des images de notre monde. Et c'est pourquoi c'est un langage figuratif, parce qu'on ne peut pas expliquer sauf d'y aller nous-mêmes pour voir ces choses. Donc c'est toujours un langage figuratif, pas une réalité. Nous serons réellement quand nous irons, quand nous serons avec le Seigneur. Donc un style apocalyptique est un style où cette barrière est brisée, une porte ou une fenêtre du ciel s'ouvre et on peut voir ce qu'il y a derrière le voile. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Apocalypse, ou disons les livres apocalyptiques, il faut comprendre qu'il y a des principes qui reviennent. des principes qu'on appelle les principes apocalyptiques. L'Apocalypse décrit par exemple les événements, si vous prenez l'Apocalypse de Jean et que vous comparez l'histoire qu'il a vécue à cette époque-là, puisque Jean, il a vécu, c'est l'apôtre qui était le plus âgé, il avait 95 ans ou 96 ans. Les théologiens, hein, s'il y a un problème, vous m'arrêtez, s'il faut corriger. Je crois que c'est 95 ans qu'il avait. Donc, il a vécu pratiquement jusqu'à la fin du 1er siècle. Et à cette époque-là, il y avait un empereur romain, donc c'est Rome qui gouvernait le monde à l'époque, il s'appelait Domitien. Et Domitien était tellement imbu de lui-même qu'il a instauré le culte impérial. Il fallait adorer, l'adorer. Il faisait des statues pour lui-même et donc on devait l'adorer, un culte à Domitien. Et donc il martyrisait les chrétiens qui refusaient bien sûr ce culte à l'empereur. Et donc les premiers étaient littéralement martyrisés, mais très violemment sous cette époque-là. Donc ils étaient dans des cachettes, ils étaient dans les catacombes, ils avaient besoin d'une espérance. Hein. Vous savez, imaginez que vous soyez persécuté physiquement. Hein, aujourd'hui, et que vous soyez, vous ne pouvez même pas se réunir ici, et que vous soyez dans des cachettes, deux ou trois familles, etc. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'espérance. Vous avez besoin, parce que votre foi est éprouvée. Hein. Aujourd'hui, notre foi n'est pas beaucoup éprouvée. Elle est éprouvée. Bon, c'est vrai qu'on a des épreuves, on a des problèmes de la vie, mais ça n'a rien à voir avec l'épreuve d'une persécution violente comme cela. Et donc, ils ont besoin d'encouragement. Et donc, un des principes, c'est les principes d'encouragement. Mais un des principes de l'Apocalypse, c'est aussi qu'à chaque crise, à chaque difficulté de l'histoire, les mêmes choses reviennent. Pourquoi? Parce que le mal est le même, parce que les hommes sont les mêmes, parce que leurs manières d'agir sont les mêmes, hein, se glorifier soi-même, établir un culte de la personne, etc. Et donc, ce qui agit sur nous, c'est valable dans toute l'histoire, dans tout ce qui peut se passer dans le monde. Il n'y a pas d'exception. Et donc, ce livre apocalyptique s'applique à chaque période de crise. Par exemple, il y avait une crise très importante au passage de l'an 1000. Hein. Bon, vous avez vu qu'il y en a certains qui commençaient une certaine paranoïa. L'an 2000, le bug de l'an 2000, tous les ordinateurs s'arrêteraient, etc. Enfin, bon, parce que c'est emblématique, hein, du passage d'un siècle comme ça, etc. Donc ça agresse les pensées des gens, etc. Et à l'an 1000, c'était terrible. Hein, l'an 1000, il y en a qui se cachaient dans les montagnes, enfin, etc. Bon, quand vous lisez l'époque de l'an 1000, c'était assez caractéristique. Parce qu'il y a une certaine peur, et en plus, il y avait des épidémies, des crises, etc. Bon, là, on parle de pandémie aussi, bon, qui finalement n'a pas lieu, etc. Mais vous voyez, il y a des principes qui reviennent dans la peur, dans la façon d'appréhender les choses. Et ces principes sont utilisés dans l'Apocalypse. La bête, par exemple. La bête, elle est là. Elle est là, la bête. La bête, elle est là, enfin, sous ces tableaux-là, et elle revient. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de difforme, hein, de démoniaque. Hein. Ah ben, cette bête, à l'époque où Jean écrit, c'était Domitien. Cet empereur, on ne pouvait pas imaginer pire, hein, que Domitien, c'était la bête. Hein. À l'époque de, par exemple, la Réforme, vous prenez la Réforme, pour Luther, Calvin, etc., c'était l'Église catholique romaine qui était la bête. D'ailleurs, on la dessinait comme une bête, etc. C'est vrai qu'il y a une corruption terrible dans l'Église. Après, ceux qui ont vécu à l'époque d'Hitler, c'était la bête, hein, l'Antichrist, etc. Enfin, l'horreur d'une personne comme ça. Imaginez les Russes, si vous étiez russe à l'époque de Staline, avec toutes les horreurs aussi, les massacres qui ont eu lieu. C'est pareil, ils vivaient de l'Apocalypse. En Chine aujourd'hui, cet État qui persécute les chrétiens, qui sont obligés d'aller se cacher pour exister, eh bien, la bête aussi, c'est l'État chinois. Hein. Donc, vous voyez, la bête, c'est un nom générique, mais qui, à toute époque de l'histoire, de crise, de difficulté, trouve une réalité dans les choses concrètes. Donc ce sont des principes. Et cette littérature de l'Apocalypse a pour but de fortifier la foi des chrétiens, de montrer que malgré les difficultés qu'on peut vivre, malgré les problèmes, malgré les épreuves, Dieu est en contrôle de l'histoire. Ça, c'est le but, le principe premier de ce livre de l'Apocalypse. C'est de montrer à chaque génération, particulièrement attaquée par des crises, de dire, le ciel s'ouvre, regardez ce qu'il y a derrière, derrière le ciel, dans le ciel, Dieu contrôle l'histoire. C'est vrai qu'il laisse faire le mal pour l'instant, mais c'est pour un temps, c'est une parenthèse. Mais un jour, le mal ne pourra plus dominer, Satan n'aura plus le droit puisqu'il sera enchaîné. Et donc ça, c'est un message d'encouragement. Vous êtes encouragé par ça ? Alors, plutôt que de lire l'Apocalypse en cherchant le moindre détail de signification et une sorte de regard, hein, de recherche du détail, de recherche d'expliquer tous les principes, tous les détails, gardons déjà en mémoire que ça doit nous encourager dans ces périodes difficiles de dire Dieu est en contrôle. Dieu contrôle les situations. Et Dieu est vainqueur. Pourquoi ? Parce que la victoire, elle était acquise à Golgotha, à la croix. Et cette victoire, elle agit à chaque fois. Et même si la mort intervient, qu'il y ait des martyrs parmi les chrétiens, eh ben, même le martyr est une victoire, puisque de toute façon, ça se traduit par la résurrection finale, et que dans tous les cas, c'est une victoire sur les éléments du mal. Amen. Il y a certaines clés dans ce livre. Alors, on a déjà parlé dans les messages précédents de la clé de la mort. Hein. Jésus détient, donc dans Apocalypse chapitre 2, il a dit que Jésus détient la clé de la mort et de la vie. Il a la clé. Hein. Amen. Parce que c'est lui qui est passé de la mort à la vie. Et c'est lui qui a les clés. Et Satan ne les a plus. Il les a retirés des mains de Satan. Et c'est lui qui a la clé de la vie. Amen. Ça vous réjouit, ça? La deuxième clé, c'était quoi? La clé de David. Et c'est quoi la clé de David? C'est dans Apocalypse chapitre 3. Pardon? La clé de l'administration des biens. Merci. Vous avez bien retenu. Hein? Donc c'est une autre clé. Hein? C'est la clé que Jésus a donnée à Pierre en tant que représentant des apôtres et à l'Église. Chapitre 18 de Matthieu. Et chapitre 16 de Matthieu. C'est la clé de l'administration des biens, l'administration du royaume sur la terre, dans le cadre de l'Église, pas dans le cadre de l'État. C'est là que l'Église officielle, catholique romaine, a usurpé les droits bibliques, où Dieu ne donne pas actuellement les clés de l'administration des biens, puisque Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et un jour, bien sûr, quand Jésus va revenir avec son Église, quand il va revenir avec nous pour gérer les biens de l'Église, cette administration va être efficace dans la vie civile et dans la vie religieuse. Mais actuellement, l'administration des biens, c'est Satan qui l'a. Et nous, en tant qu'Église, nous avons la clé de David, mais uniquement dans l'Église. Vous pouvez l'utiliser uniquement dans l'Église pour gérer la vie de l'Église. Donc ça, c'est la deuxième clé. Et il y a d'autres clés, hein. Par exemple, la clé de l'interprétation de ce livre, justement, c'est une clé qui se base sur la compréhension de tout ce qui est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'Apocalypse ne nous révèle pas vraiment quelque chose de nouveau. C'est une sorte de conclusion, un livre de conclusion qui résume tout ce qu'on sait déjà auparavant, quand on connaît la Bible, bien sûr. Donc cette interprétation se fait à la lecture de tout ce qu'on connaît. Bien sûr, si on ne connaît pas la Bible, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, il y a des gens, ce matin on parlait de la dîme, qui disent « Oui, la dîme, enfin des chrétiens, je parle des gens, des chrétiens, ils disent « Oui, la dîme, c'est l'Ancien Testament ». Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament commence avec Moïse. Malheureusement, l'Ancien Testament, on remonte à la Genèse. Mais l'Ancien Testament commence avec Moïse. Mais la dîme, elle a été pratiquée par qui ? Par Abraham. Vous voyez, il y a des conceptions totalement fausses, enfin, des choses qu'on se répète comme ça de chrétien à chrétien, mais quand on regarde, quand on sonde les Écritures, il y a des principes, parce que c'est le principe de l'adoration, du sacrifice, c'est le principe des dons. Et donc, on est toujours sur ces principes du royaume. Donc, les principes du royaume qui, dans l'ensemble de l'Écriture, nous aident à comprendre les événements. Et une des clés aussi, c'est de regarder de manière contemporaine ce qui se passe dans les crises, effectivement, pour voir comment s'applique ce livre, non pas dans les détails, mais dans les principes, pour que nous soyons encouragés de dire, Seigneur, toi, tu as les choses en contrôle. Et il y a toute une mode actuellement aux États-Unis, au Canada, puisque c'est des serviteurs de Dieu qui nous l'ont dit, où il y a des chrétiens qui connaissent mieux comment le monde est contrôlé par la franc-maçonnerie, les Illuminati, etc. Ils connaissent mieux ça que la Bible. Pourquoi ? Parce que maintenant, Internet diffuse toutes ces choses qui ont toujours existé, mais que c'est accessible. Donc, ils passent un temps fou. Il y a des chrétiens, ils ne sont plus dans l'Église, qui étaient tellement parano de cela, hein, qu'en fait, ils étaient dans la... On se crée des peurs, hein, on dirait so what, ça a toujours existé. Hein. C'est simplement que ça va vers un point culminant, mais l'homme a toujours, avec l'aide de Satan, contrôlé le monde. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on ne se cache plus, ils ne se cachent plus, parce qu'ils savent que trop de gens sont maintenant esclaves et qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est la seule chose qui change. Donc maintenant, ils s'affichent ouvertement, parce qu'ils savent qu'ils ont gagné la bataille. Mais nous, nous avons gagné la victoire en Jésus-Christ. Ça, c'est notre victoire à nous. Et l'ennemi tend des pièges aux chrétiens en regardant aux choses négatives plutôt que la parole du Seigneur qui est la victoire. Amen. Une des clés, c'est le message que l'Apocalypse donne à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 10. « Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Ça, c'est une des clés de l'Apocalypse. L'église de Smyrne. C'est vrai que le diable va chercher à nous cribler. Mais il l'a déjà fait au premier temps, avec Pierre. Jésus a dit à Pierre, l'ennemi veut te cribler. Mais j'ai prié pour toi pour que tu restes ferme dans la foi. Qu'on veuille être criblé, c'est normal. Si nous sommes chrétiens, le diable va essayer de nous cribler. C'est si nous ne sommes pas vraiment chrétiens qu'il ne va pas nous cribler. Mais si nous sommes vraiment chrétiens, il va chercher à nous cribler. Notre vie personnelle, vie sociale, dans notre vie de nation, hein, pour mettez-vous à la place des Chinois, ils sont criblés. Et nous, quelque part en France, nous sommes aussi criblés. Peut-être plus sur le plan mental et sociologique. Mais c'est normal, parce que Satan, il hait Christ et il haït les chrétiens qui lui appartiennent. Donc, il n'y a rien de nouveau. La seule chose, c'est que nous devons avoir confiance, parce que la Bible dit que le diable va nous jeter va essayer de tenter de nous jeter en prison, mais reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, hein, nous avons déjà la vie, mais nous aurons la couronne de vie. C'est-à-dire que nous vivrons dans la vie éternelle avec le Seigneur. Et si nous restons fidèles au premier amour, fidèles dans notre foi, fidèles dans la parole, fidèles, amen. Nous avons un Dieu qui est fidèle, nous avons chanté ce matin. Nous avons Christ qui est fidèle. Il a dit, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il attend. Ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël, hein, où dans l'infidélité, que ce soit Amos, Michée, enfin tous les prophètes, eh bien, à chaque fois, il y a un message de restauration. Je vais vous restaurer parce que je vous aime. Je vais vous établir et je vous donne la couronne de vie, mais soyez fidèles. C'est notre part à nous de rester fidèles. Dieu a fait sa part et nous donne même la foi et la force pour le rester. Amen. Autre message de l'Apocalypse, attention au compromis. Attention au compromis. Hello ? Vous dites attention au compromis ? Le compromis nous attend partout. Nous attend partout. C'est pas facile. Voyez-vous, quand moi je me suis converti, mes parents, ma famille était catholique, je suis devenu du jour au lendemain le mouton noir, alors qu'on avait une très bonne entente familiale à tout point de vue. Parce que j'avais changé de religion. Bon, j'avais des doutes, bien sûr. Est-ce que on continue à aller à fêter les baptêmes, etc., les catholiques et tout ça. Enfin bon, vous voyez, alors que nous, on croit que le baptême, c'est autre chose, etc. Et on a tendance à vouloir faire des compromis, surtout en famille, parce qu'on peut blesser. Donc il y a des choix à faire, ce ne sont pas toujours faciles à faire. Pas toujours faciles à faire. Mais alors il faut, même si on fait des ruptures radicales, il faut le faire dans l'amour. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, dans le monde, eh bien, ces compromis nous attendent. Est-ce que, voyez-vous, on veut servir le Seigneur et quand même faire plaisir, et quand même, vous voyez, toute cette problématique du compromis est présente dans notre vie de chaque jour. Et là, on a besoin, alors, lisez des livres aussi concrets de témoignages, de gens qui, dans le passé, qui ont vécu vraiment des choses extraordinaires. Quand vous n'acceptez de pas faire de compromis, c'est très difficile, mais quand vous n'acceptez de pas le faire, mais dans le Seigneur agit de manière miraculeuse. Et c'est là que vous pouvez souvent de voir les plus grandes choses dans votre vie, la manifestation de la présence de Dieu où il intervient pour vous. C'est pas facile. Mais c'est souvent dans les difficultés que vous apprenez le plus de choses, ne pas faire de compromis. Et ça, c'est un des points de l'Apocalypse. Il dit, celles qui vénèrent la bête et reçoivent la marque du nom de la bête, elles vivront dans le tourment pour l'éternité. Mais celles qui ne vénèrent pas la bête, la bête qui est là, et qui prend des formes différentes suivant les époques, mais obéissent au commandement de Dieu et gardent leur foi en Jésus-Christ, elles régneront avec lui pour l'éternité au paradis. Hello? Voyez-vous, ça, ce sont le manque de, enfin, l'absence de compromis, le refus du compromis, ça fortifie votre foi. Parce que vous voyez la gloire de Dieu dans vos situations. Sinon, vous ne pouvez pas la voir. Vous pouvez l'imaginer, vous pouvez lire des livres d'autres qui ont fait ces expériences-là. Mais vous, si vous voulez que votre foi soit fortifiée, ben, arrêtez de faire des compromis dans votre vie. Demandez la grâce du Seigneur d'agir dans l'amour, mais dans la fermeté. Et là, vous verrez de grandes choses. C'est un livre aussi, Apocalypse, un autre point. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que sinon on dépasse largement l'heure. Un autre point, c'est un livre d'adoration. C'est le livre qui montre la dimension de l'adoration dans tout son aspect. Or, vous savez que nous, on était faits pour adorer. On était faits pour adorer. Parce que tout seul, qu'est-ce que nous sommes tout seul? Tout seul. Hein? Nous dépendons de Dieu. Nous avons été créés de Dieu. Nous sommes une créature de Dieu. Et donc, c'est dans l'adoration que nous avons notre identité. C'est quand nous adorons Dieu que nous sommes un être humain, que nous sommes à l'image de Dieu. Sinon, nous sommes quoi? Nous sommes un pantin, nous avons juste une vie, un peu comme, vous savez, les petits jouets que vous montez avec un ressort, à un moment donné, ça s'arrête. Bon, ben, nous sommes comme ça. C'est-à-dire que la mort, le syndrome de la mort est entré en nous, et puis nous vivons peut-être 60, 70, 80, 110 ans pour les plus, puis c'est terminé, ça s'arrête. Nous sommes des pantins qui avaient dû remonter avec un ressort. Donc c'est ça la vie. Alors nous pensons que c'est la vie, les hommes pensent que c'est la vie, mais ça n'a rien à voir, ça c'est pas la vie. Ça c'est le ressort bon, qui continue à fonctionner, mais on sait qu'à terme il s'arrête. Mais la vie c'est Jésus-Christ, c'est en Dieu, c'est Dieu qui a la vie. Aucun scientifique, quel qu'il soit, n'a réussi à reproduire la vie, et ils ne réussiront jamais. On réussira à atteindre des planètes comme Pluton, d'ailleurs on le fait avec des trucs automatiques. Oui, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On découvre ce que Dieu a fait. Mais personne ne peut créer la vie, c'est pas possible. Là on crée une illusion scientifique, on épate le grand public avec un tas de trucs, des lasers, des machins, et tout ça, ce que vous voulez. Mais on épate les gens. Mais la vie n'appartient qu'à Dieu seul. Et en Jésus-Christ, il n'y a qu'en lui qu'est la vie. Et si nous voulons la couronne de vie, il faut que nous restions fidèles. Amen. Pas de compromis et restons fidèles à Dieu. Le livre d'adoration, le livre d'Apocalypse, qui est un livre d'adoration, eh bien, il montre d'une part de l'adoration de Dieu, mais aussi de l'adoration des idoles. Or, les idoles, alors qu'il y a un livre de René Chevel, qui explique bien la guerre des dieux, que l'enjeu, c'est l'enjeu de l'adoration. L'enjeu de l'adoration. Pourquoi ? Parce que Satan, Lucifer, était l'astre brillant, comme la Bible l'appelle, qui était en charge de l'adoration dans le ciel, de tous les anges. Et donc il apportait l'adoration à la louange, il conduisait l'adoration. Et à un moment donné, il y a dans son cœur quelque chose qui est venu en disant bah, toute cette adoration pourrait être pour moi. Et ça, c'est en chacun de nous. Et c'est ça qui forme les tyrans. À un moment donné, voyez-vous, l'adoration, quand vous voyez des gens hein, dans les stades, des fois les gens sont transformés, les vedettes sont transformées par cette foule qui monte d'une sorte d'admiration, adoration. Eh bien, Satan, c'est ce qui lui est arrivé, Lucifer. Et à un moment donné, il est dit de toute cette adoration, si je la détourne de Dieu, je la détourne vers moi, je peux être comme Dieu. Voyez. Donc c'est une guerre d'adoration, une guerre d'autel, une guerre de temple, une guerre. Et c'est ça qui se passe, nous sommes piégés par cette guerre qui se passe au travers de l'adoration des idoles. Et ce livre de l'Apocalypse montre que nous devons nous détourner de l'idolâtrie. Quand on a vécu des choses difficiles dans l'Église, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, montre-moi la cause première. Il m'a dit, c'est l'idolâtrie. Alors j'étais loin d'imaginer ce que c'était que l'idolâtrie. Je pensais que c'était pour les temps reculés, le Moyen-Âge, ou pour les pays reculés comme l'Afrique ou les gens qui n'étaient pas instruits. Il a dit non, c'est l'idolâtrie dans l'Église qui provoque ces problèmes. Et je me suis mis à chercher ce que c'est que l'idolâtrie. C'est là que j'ai découvert qu'on est rempli d'idolâtrie autour de nous. Et que le principe d'idolâtrie, même dans un pays civilisé comme nous, il est peut-être plus caché, mais il est encore plus fort parce qu'il atteint directement nos pensées. Il transite, il n'a plus besoin forcément des images ou des statues, mais il agit dans les principes de la philosophie et des conceptions d'organisation du monde. Donc ce livre montre qu'il y a deux adorations. Il y a l'adoration des démons, au travers des idoles, au travers de la bête, au travers des principes du monde, et l'adoration de Dieu. Et il montre que dans des périodes de crise, eh bien là, il y a une difficulté, effectivement, qu'il faut arriver à régler pour que nous puissions nous attacher uniquement à l'adoration de Dieu sans toucher aux idoles. Parce qu'à chaque fois que nous touchons à une idole, chaque fois nous sommes en communion avec un démon. Et cette communion avec un démon nous contrôle nos vies, contrôle notre façon de penser. En fait, nous sommes contrôlés et nous ne pouvons pas le savoir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait attention à l'époque, parce que quand on est averti de ces choses-là, on regarde l'actualité un peu différemment. Quand vous regardiez Mitterrand quand il parlait, il y en a qui ont fait attention. Mitterrand, notre cher président qui est défunt, quand vous le regardiez à la télévision, vous voyez qu'il y avait des tics, il y avait des choses qui se produisaient, qui étaient spirituelles. Spirituelles. Il était contrôlé. Lui-même, bon, je sais qu'il a demandé l'aide de chrétiens parce qu'il cherchait un peu partout. À la fin, il a voulu se tourner vers le Dieu des chrétiens. Parce qu'il avait peur de la mort, quoi. Littéralement, il demandait à la ministre, Georgina Dufoy, il lui demandait de venir régulièrement pour lui parler du Dieu des chrétiens. Il était perdu, mais il était contrôlé. Et c'est ça, que, quand nous touchons à une idole, nous sommes contrôlés. Et parfois, c'est juste dans un domaine précis de nos vies. Et c'est pour ça qu'il faut chercher la délivrance. C'est pour ça qu'il faut chercher à être libéré, pour que nous soyons pleinement libres. Et l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, qui est en fait retrouver ce que Dieu a voulu pour nous. Le but que Dieu a pour nous, c'est quoi? C'est le but qui se trouve dans vos Bibles, dans Genèse chapitre 2. Dieu venait chaque jour et il s'entretenait avec Adam, il parlait avec Adam, une communication, une relation, etc. Voyez-vous? Et dès qu'il y a le péché, il y a une distance qui se sépare. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est qu'on communique avec Dieu, qu'on communie avec Dieu. On le loue pour ce qu'il est et on reçoit un retour. Ça, c'est une communication, la vie qui transite, un peu comme le sang qui circule dans nos veines. C'est cette vie qui circule en nous. Et ça, nous sommes faits pour ça. Sinon, nous sommes des êtres morts, des êtres sans vie où nous perdons la vie, comme si le sang coulait de nos veines et à un moment donné, le cœur s'arrête. L'adoration, c'est le principe même de la vie. Et ce pourquoi nous avons été faits. Et donc ce livre peut nous aider beaucoup à comprendre l'adoration. Et j'aime beaucoup cette vision de rebâtir l'autel de l'Éternel. C'est la vision de la France en feu, Paris en feu, Aubergenville en feu, on l'a fait, mais il faut le refaire. Cette vision qui est bien expliquée, qu'a reçue Fabienne Pont et toute son équipe, qui est de rebâtir l'autel d'adoration en France. Si nous rebâtissons l'autel d'adoration dans nos vies, alors, il n'est pas question d'aller chez vous, de mettre un autel, bon, vous avez compris. Mais si dans votre vie personnelle, vous prenez du temps pour l'adoration, si dans votre vie de couple, vous prenez du temps pour adorer Dieu, si dans votre famille, vous prenez du temps pour adorer Dieu, si dans votre travail, vous prenez du temps pour adorer Dieu, sur la place publique, là où vous êtes, vous adorez Dieu, si dans l'église, on adore Dieu, et dans le pays, on adore Dieu, l'ennemi, il est obligé de fuir. Parce qu'il hait l'adoration, parce qu'il veut l'adoration pour lui. Mais si vous tournez l'adoration vers Dieu, il va vous fuir. Bien sûr, il va vous haïr, mais il va fuir. Et vous allez être une puissance de libération là où vous êtes. Parce que la seule chose que l'ennemi a peur, c'est l'adoration de Dieu. C'est l'adoration de Dieu. Ce qui est tellement centré sur lui, un ego absolument immense, qui ne peut pas supporter qu'on adore Dieu. Donc, la plus grande arme que vous avez pour la victoire, c'est l'adoration. Amen. Vous dites amen. L'adoration. Donc, que ce livre de l'Apocalypse soit clé pour vous, pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Et j'espère qu'on pourra faire de nouveau Aubergenville en feu pour établir eh bien, le trône de Dieu dans cette ville, parce que je sais, bien sûr, cette ville est piégée, particulièrement plus que d'autres, mais s'il y a une adoration ici qui monte vers Dieu, eh bien, tous les magiciens, les sorciers, tous ceux qui utilisent la puissance qu'ils ont, ils sont obligés de partir. Et alors, les yeux de ceux qui sont là vont s'ouvrir pour se tourner vers le Seigneur, parce que tout le monde a soif d'être libre, tout le monde a soif d'être libéré. Mais nous sommes les agents que tu utilises pour les libérer au travers de l'adoration en particulier. Amen. Il y a un mot, donc un autre point d'Apocalypse, il y a un mot qui est une clé, un mot clé dans l'Apocalypse. C'est quel mot? C'est très difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots dans la Bible. Mais il y a un mot clé qui est vraiment utilisé pour nous encourager, pour nous aider vraiment à comprendre ce livre, pourquoi il a été écrit. C'est le mot Nikao. Vous connaissez la marque Nike? La marque Nike, hein, quand vous mettez les chaussures Nike, ça vient de Nikao, hein, c'est le grec. C'est pour aller vers la victoire, pour être champion. Il y en a qui veulent champion ici? Mettez des Nike. Hein. Mais mettez des Nike spirituels. Hein. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la victoire. Et quand vous regardez les lettres où cette église, regardez chaque lettre. Chaque lettre, il est dit, tu seras vainqueur. Tu auras la victoire. Si tu fais ça, tu auras la victoire. Et c'est le verbe nikao qui est utilisé. Tu seras vainqueur. Tu seras victorieux. Tu seras vainqueur dans ta situation. Tu seras vainqueur dans les problèmes que tu as actuellement. Tu auras la victoire. Amen. Ça, c'est la vraie clé de la lecture de l'Apocalypse. Non pas chercher comment ça va se passer dans les détails et faire du fantasme et de la spéculation. Ça n'apporte pas grand-chose. Mais de savoir que Dieu vous donne la victoire, que vous êtes vainqueur en Christ, que notre identité, c'est une identité de vainqueur sur le mal et sur le pouvoir du mal, ça donne de la force dans notre vie, dans notre foi. Vous dites amen ? C'est pourquoi, quand nous avons vécu une petite apocalypse ici, hein, je dis petit parce que bon, enfin, c'était grand pour nous, sur Bergenville, et qu'on a vu ces combats que nous avions, Le ciel s'est ouvert. Moi, j'ai tout de suite, alors que ça fait 40 ans que je suis converti, j'ai jamais vu d'un seul coup le ciel s'ouvrir comme ça, voir des apparitions, des visions, des choses qui se passent. Bon. Et là, j'ai écrit mon journal de prière. Je dis, là, il faut que j'écrive parce qu'il se passe quelque chose. Et nous avons vécu ça. Et la victoire, eh bien, c'est quand nous avons utilisé la repentance, toutes les clés que nous avons apprises, la repentance, le croire, la clarté, etc. Et nous avons intitulé cette opération Nicaolis, c'est-à-dire pour libérer Élisabethville. Et nous continuons à rester dans cette opération Nicaolis. Et j'espère que, je sais que beaucoup d'églises en France aussi cherchent à trouver la victoire dans chacune de leurs villes. L'opération Nicaolis, c'est pour vaincre les puissances sur Élisabethville. Alors, il y a différentes manières de les vaincre. Hein. Au départ, comme on n'y connaissait rien, puisqu'on était au pied du mur, il y avait des serviteurs de l'extérieur qui sont venus, on a pris autorité sur les puissances, on s'est déplacé partout et tout ça. Et en fait, on a fait chatouiller, on a chatouillé ces puissances qui sont devenues, qui ont dit, ah, vous allez commencer à prendre autorité. Et là, on a eu les pires problèmes. Et c'est maintenant qu'on a compris que la repentance, la foi, l'adoration, la louange, c'est ça la vraie clé. Pourquoi? Parce que c'est Christ, c'est Jésus, qui ordonne à ses puissances d'arrêter de nous attaquer. C'est lui qui a la victoire. Et ce n'est pas par nos forces que nous y arrivons, mais c'est par l'adoration, par le fait que nous obéissons au commandement de Dieu, que Dieu, lui, va prendre les choses en main. Il va dire, cette Église, elle va gagner parce qu'elle ne va pas se glorifier, elle va compter sur moi. Et donc, l'humilité est une des clés pour la victoire. À la fin de chacune des lettres de cette Église, on encourage les membres de vaincre pour recevoir le royaume. Comme le Christ a vaincu, et comme il siège avec son Père sur son trône, telle sera la part du vainqueur, en référence à la vision de Jean, dans Daniel aussi. Les mêmes choses sont répétées. Dans Romains chapitre 8, versets 35 à verset 39, on peut lire ce passage qui fait aussi référence à la victoire. Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, voyez-vous, ça c'est une description apocalyptique de la situation. Hello? Vous êtes dans cette situation? Peut-être pas autant que à d'autres époques, mais bon, quelque part, on peut les vivre. Mais dans toutes ces choses, est-il écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, Nikao, la victoire. Dans toutes ces choses, ce ne sont pas ces choses qui vont causer notre défaite. Ce n'est pas non plus ces choses que nous allons glorifier, comme quoi elles vont nous aider à nous sanctifier, etc. Non, c'est déjà assez difficile comme ça. On ne va pas chercher à faire pénitence là-dessus. Non. Mais dans toutes ces choses, donc dans la tribulation, dans l'angoisse, dans la persécution, dans la faim, dans le dénuement, dans le péril ou dans l'épée, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Par Jésus-Christ qui nous a aimés. Car je suis persuadé, et quand Paul dit persuadé, il est persuadé. Hein? Vous connaissez Paul. Hein? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, voyez-vous les dominations, on parle de ces dominations spirituelles, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, hein? Tout y passe. Hein? Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, ce qui est important, c'est l'amour. L'adoration, c'est un échange d'amour. Dieu nous aime. Il y en a qui croient que Dieu vous aime. Eh bien, nous aimons Dieu en retour. C'est l'amour qui est le canal d'échange de la vie. le canal de la victoire, le canal qui nous donne d'être vainqueurs. Amen. Dans toutes ces choses, il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, sauf nous. Il y en a un, il y en a une qui peut vous séparer, c'est toi. Si toi tu as peur, si toi tu crains, si toi tu te fais peur, hein, arrête de regarder Internet et tout ce qui te présente, si tu as peur, si tu n'as pas la capacité d'être au-dessus de ça, et que tu as peur, eh bien, regarde à Jésus qui t'aime. Regarde à l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Repasse les choses dans ton cœur. Pourquoi, dans la parole de Dieu, il est dit « repasse les choses dans ton cœur ». Pourquoi est-ce que les Juifs se rappelaient de ce qui s'est passé, le passage d'Égypte, la délivrance? Parce qu'ils devaient se souvenir que Dieu est fidèle et que s'il a fait ça pour eux, il va continuer à le faire dans l'avenir. Amen. Donc, que ces choses nous fortifient pour que nous puissions rester dans la victoire. Amen. Dernière chose, c'est la constance. Ce livre nous parle de constance, de résistance, de rester ferme, de ne pas bouger. Voyez-vous ? Quand vous voulez attraper du gibier, moi souvent, quand j'étais petit, mon père nous emmenait à 5h du matin voir le gibier. Alors, il fallait rester, ne pas bouger pour ne pas effrayer, pour qu'on voit les animaux, sinon on ne les voyait pas. Ben là, c'est un peu pareil. Dans toutes ces situations, restez ferme. Il y a une clé qui est très importante vis-à-vis de Satan, vis-à-vis de ses attaques, c'est quoi? C'est de lui résister fermement. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira. Voyez-vous, ce qu'il faut, c'est pas se laisser déstabiliser. Parce qu'il a tout un tas d'artifices, le diable. Il va vous impressionner. Regardez comme il a essayé d'impressionner Jésus. Oui, tu es le fils de Dieu, tu vas commander ces pierres qui deviennent du pain. Tu es le fils de Dieu, il y a des anges qui viennent t'apporter. Voyez-vous, il impressionnait Jésus avec la parole de Dieu. Hein? Voyez-vous, ça c'est la tactique de l'ennemi. Il veut vous impressionner. Mais ne vous laissez jamais impressionner. Restez sur l'autorité que Dieu vous donne, sur l'assurance que Dieu vous donne. Et vous résistez à l'ennemi. Vous n'avez pas d'arme. Si vous prenez une arme, elle va se retourner contre vous. Et je pense que c'est une erreur qui s'est produite chez les Huguenots qui ont pris des armes. Dès qu'on prend une arme, elle se retourne contre nous. La seule arme que nous avons, c'est l'amour. Le jugement, l'Apocalypse montre que Dieu jugera le monde. Ce n'est pas à nous de juger. La force, elle n'est pas à nous, puisque le gouvernement ne nous est pas donné. Nous, nous avons le gouvernement avec le Seigneur dans l'Église, au niveau du ciel, au niveau du royaume de Dieu. Et un jour, le gouvernement viendra ici. Mais actuellement, il y a une séparation entre les deux. Mais nous, nous devons tenir ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Restez ferme sur la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, à sa parole, oui. Et que toute cette parole puisse être imprégnée, nous soyons imprégnés de la parole pour savoir en quoi nous devons nous soumettre à Dieu. Et résister au diable, résister à ses avances, résister à son pouvoir de magie, de toutes sortes de choses étincelantes. Résister et il fuira. Oh, il va peut-être attendre une nouvelle occasion, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Il a attendu une nouvelle occasion pour tenter Jésus, mais il n'y est pas arrivé. Il est revenu dans le jardin de Gethsémané pour lui dire « Mais arrête, cette coupe, elle est trop dure pour toi. » Non, Jésus a persévéré jusqu'au bout. Et grâce à sa persévérance, nous, nous sommes vainqueurs. Grâce à sa persévérance, nous avons la victoire. Grâce à sa persévérance, eh bien, nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui nous sauve. Amen. Il y a une tension, c'est vrai, qu'il y a une tension entre le fait que nous sommes sauvés et le fait que nous ne sommes pas encore complètement délivrés du mal. Cette tension. Et cette tension, elle existe depuis la résurrection de Jésus, depuis les premiers chrétiens. C'est une période de temps, hein, qui dure un certain temps, cette tension, et nous devons arriver à vivre cette tension. Mais Dieu va nous aider à vivre cette tension. C'est la tension entre « je sais que je suis sauvé, je sais que je suis une nouvelle créature, et pourtant il y a ma chair qui m'entoure et qui me pousse à essayer de me pousser à me servir moi-même. Et cette tension est illustrée dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, où il est dit, nous sommes enfants de Dieu. Il y en a qui sont enfants de Dieu ici. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors, nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez-vous, ce que nous sommes n'a pas encore été totalement révélé. Il sera révélé lors de la résurrection. Mais nous sommes déjà une nouvelle créature. Et si nous restons sur cette identité que nous avons en Christ, eh bien, nous avons la victoire parce que nous persévérerons jusqu'à la fin et nous aurons la victoire, la persévérance. La persévérance, ça, il nous faut vraiment la persévérance pour aller jusqu'au bout. Comment actualiser tout ce que je viens de dire, ces principes de l'Apocalypse? Eh bien, je dirais que il y a beaucoup qui disent, oui, vous dites que le Seigneur revient, mais il n'est pas revenu. Ça fait 2000 ans qu'il n'est pas revenu. Qu'est-ce que vous dites à ça? On s'en rapproche. Je voulais vous dire ça. C'est vrai que dans chaque époque, et à l'époque de Jean, sous Domitien, où ils devaient adorer l'empereur, sinon ils étaient jetés dans la gueule des lions, ils devaient avoir cette résistance par rapport au compromis, cette résistance par rapport au monde, cette résistance par rapport à l'adoration des idoles. Ils devaient être forts. Et ils avaient besoin de l'Apocalypse pour leur dire, attendez, dans cette situation, il y a la victoire. Dans votre situation, la victoire. Dans les siècles qui ont suivi, à chaque fois, quand il y a eu des crises, il y a eu besoin. Et aujourd'hui, nous sommes dans une crise. D'accord ? Tout le monde reconnaît qu'on est dans une crise. Mais aujourd'hui, l'Apocalypse, elle s'applique. Mais elle s'applique d'autant plus que l'histoire, elle avance. Et que si la parole de Dieu dit, et l'Apocalypse, elle dit que ces choses vont arriver très vite. Non pas vite, mais très vite. Le mot qui est utilisé en grec, c'est très vite. Et donc, à l'époque de Domitien, ça va arriver très vite, hein, parce que quand ils lisaient ça, ça leur parlait. Oui, il est bête et qui agit, etc. Mais je suis vainqueur. Aujourd'hui, les choses vont arriver très vite aussi, mais dans le plan d'histoire, on a avancé. Et en 1948, qu'est-ce qui s'est passé? 1948. Israël. Je ne sais pas si c'est David Ben-Gourion qui a dit, quelqu'un, un président incroyant, celui qui ne croit pas en Dieu, il n'a qu'à regarder à Israël. Israël, c'est le... l'histoire dans l'événement de toute l'humanité, où un peuple est venu à la naissance alors que jamais ça ne s'est produit et jamais ça ne se reproduira, avec une langue, avec une civilisation, avec tout cela, alors qu'ils étaient dans la diaspora. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a dit, un jour, je les ramènerai dans mon pays. Et Jésus a dit à ses disciples, quand ces choses arriveront, là, le temps est proche de mon retour. Quand ces choses arriveront, quand Israël retournera dans son pays, donc en 1948, moi c'est mon âge puisque je suis né en 48. Et voyez-vous, nous sommes dans cette génération où nous sommes vraiment très proches, encore plus que les premiers. Donc l'Apocalypse est vraiment le livre de l'actualité. Certains ont dit, oui, l'Apocalypse n'intéresse personne. Mais c'est le livre qui devrait nous intéresser le plus en tant que chrétiens, parce que ça s'applique non seulement dans une apocalypse de crise, mais aussi dans l'apocalypse de la fin, où nous pourrons dire, Seigneur Jésus, viens. Et nous savons que le retour de Jésus est proche. Parce qu'il a dit, quand le figuier refleurira, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alléluia. C'est pour ça que je crois que nous, en tant que chrétiens, notre génération, c'est le plus enthousiasmant de toutes les générations que nous pouvons vivre. Hello ! Allez un peu au-dessus de vos petits bobos, bon, je ne veux pas les minimiser, ils existent. Mais nous vivons dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du cosmos tout entier, une histoire extraordinaire où nous allons voir le retour de Jésus. Hello ! Vous l'attendez, ce retour de Jésus ? La délivrance finale, le bouquet d'artifice final de l'humanité où nous allons être prie avec lui. C'est ça que nous vivons. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 32, vous lirez cela. Jésus dit, sachez que le Fils de l'homme est proche. Quand ces choses arriveront? Et ces choses sont arrivées en 1948. Amen. Et pour nous, en tant qu'Église, bien, si nous avons vécu un petit apocalypse, le Seigneur nous a donné des promesses et des projets d'avenir. Il a pour chacun de nous un projet. Il a un projet d'avenir pour toi. Il a un projet d'avenir pour chacun d'entre nous. Mais il y a aussi un projet d'avenir pour chaque Église. Hello? Et pour notre Église, il nous a donné le projet fève. Alors, ce n'est pas le temps des fèves. Hein. Les fèves, c'est pour le mois de janvier. Mais le projet fève qui est de restaurer les familles. Hein. Le F, c'est pour les familles restaurées et épanouies. Aujourd'hui, les familles sont mal en point, elles sont malmenées par l'ennemi, mais le Seigneur veut établir des familles. Et moi, je veux voir des familles épanouies. Même si elles ne sont pas pleinement épanouies, mais elles vont vers l'épanouissement, et ça, c'est un des projets de l'Église qui avance. Une Église accueillante et dynamique. J'étais étonné, qui va revenir d'ailleurs à la session, qui vit quand même des choses extraordinaires en Angleterre, Kingdom Faith, hein, c'est des milliers, de, je ne sais pas combien d'églises ils sont dans le monde. Et il a dit, ah, moi, j'ai été frappé par l'accueil ici. Bon, on n'a rien d'exceptionnel, mais il a été frappé, il a dit, je veux ramener ça là-bas. Bon. Vous voyez, une église accueillante dynamique, et on n'a pas obligé à dire ça. Bon. Donc, on est en marche vers ça. Une école de formation pratique de disciples. Je suis étonné que les jeunes sont dans ce processus à fond, que l'école biblique de transformation, c'est exactement ça, l'école de disciples, pratique pour l'église. Et je peux vous assurer que les meilleures choses, on les apprend sur le terrain. On apprend des choses dans les écoles bibliques, mais c'est sur le terrain qu'on apprend les mécanismes, qu'on apprend les subtilités de l'utilisation des armes spirituelles, etc. Et donc, nous sommes une école de formation pratique de disciples, pour que dans chacune de vos situations de la semaine, vous soyez vainqueurs. Amen. Hein? Vous puissiez revêtir les chaussures Nike. Hein? Vainqueur, ni KO. Un autre projet, c'est d'avoir une ville influencée par les bénédictions de Dieu. Voilà, je suis content que Jérôme puisse s'installer ici, c'est pas facile, hein, c'est aussi un combat, c'est une difficulté. Mais vous voyez, même dans les difficultés, ça y est, on lui enfonce ses clôtures, mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est un peu d'argent, bon, on va le retrouver, puis on va l'aider, bon, tout ça. Mais au travers de ça, il peut rencontrer le responsable de la sécurité, il peut rencontrer des gens de la ville qu'il ne rencontrera pas autrement, il peut avoir un contact avec eux, échanger. Vous voyez, il faut toujours voir que dans une difficulté, il faut en faire un marchepied. Toutes les difficultés, il faut en faire un marchepied pour que nous puissions nous réjouir de ce que Dieu fait. Amen. Et cette ville sera influencée par la bénédiction de Dieu. Elles l'ont été dans le passé, puisque Vaux-les-Venots est un rappel de ce qui s'est passé, d'une bénédiction dans cette ville, et Dieu va le faire de même. Et une société. Le S, c'est pour société influencée par l'évangile du royaume. Nous voulons influencer notre société par l'évangile du royaume. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas de compromis dans nos vies, même si ça nous coûte. Parce que nous ne pouvons pas influencer si nous n'avons, notre sel n'a plus de saveur. Jésus a dit, si votre sel perd de la saveur, si on fait des compromis, par exemple, avec la parole de Dieu, eh bien, nous ne pouvons plus saler. Le sel, c'est pour apporter de la saveur et pour dire il y a un Dieu qui est en contrôle des situations, contrôle de ta situation, de ma situation, de la situation de l'Église, de la situation de la famille, de la situation de la France et de la situation du monde. Amen.